planète n'arrête pas de tourner parce que c'est le week-end. Restez informés en écoutant Que Québec se lève.
Avec Paul-Raphaël Charon et Pascal CV.
Jusqu'à 10h, vous écoutez Que Québec se lève.
Au FM 93.
FM 93. Ça me parle. Ça me parle.
7h01, samedi le 16 février 2019. Bonjour à tous, bon matin. Bienvenue à Que Québec se lève. Salutations cordiales et distinguées à mes collègues Pascal CV et Kevin Dupont.
Hola.
C'est un plaisir de vous retrouver.
Toujours.
Je vois que vous avez réussi à sortir vos voitures du banc de neige. C'est une bonne nouvelle. J'ai fait que t'es pris là ce matin. On va y revenir. Commençons la journée avec des nouvelles, Kevin.
Ouais, bien tout d'abord, il y a une partie du toit de l'épicerie métro de la route Lagueux qui s'est effondrée vendredi en fin d'après-midi dans le secteur de Saint-Étienne, de Lauzon et Lévis. L'effondrement s'est produit dans le rayon de la boucherie. Selon le chef de pompier François Dubé, les vidéos de surveillance montrent les 5 employés de la boucherie qui réussissent à fuir le bâtiment. Et après avoir effectué certaines vérifications, les pompiers ont pu confirmer que personne n'avait été coincé sous les débris. La Ville de Québec va déverser lundi prochain 125 millions de litres d'eau usée non traitée dans le fleuve Saint-Laurent. La Ville doit effectuer des travaux de réparation d'une conduite sanitaire à proximité du pont Pierre-Laporte. Février est la période de l'année où le débit d'eau usée est le plus faible à cet endroit. La Ville indique qu'à défaut de réaliser ces travaux planifiés, un bris majeur pourrait entraîner un déversement d'eau usée de plus grande importance et incontrôlable. Et le président américain Donald Trump a déclaré hier l'état d'urgence. Son objectif est d'ainsi d'obtenir les fonds fédéraux nécessaires pour financer l'érection d'un mur à la frontière séparant les États-Unis du Mexique. L'initiative de M. Trump a soulevé une forte indignation. Tout porte à croire qu'elle fera l'objet d'une vive contestation judiciaire.
Alléluia, mes amis! On va enfin pouvoir pelleter. On est-tu chanceux, il y a qu'un peu? On va enfin pouvoir pelleter et avoir espoir que ça reste beau pendant 48 heures. Peut-être même plus, peut-être plus, peut-être plus.
Je pensais que tu t'en allais dire, j'avais hâte de pelleter.
Non. Okay. Ben, pas de farce, là. J'en ai plein mes shorts de pelleter, mais j'ai presque hâte, sachant que ça va rester beau.
J'en ai plein mes shorts.
Non, mais ce qui me tente, c'est pelleter, puis qu'une demi-heure après, il y ait un pied de neige. Ça, c'est plus démotivant. Mais on a un break, chers amis. On a un break qui s'en vient. Parce qu'aujourd'hui, maximum moins 2. Quelques petits flocons, mais même pas assez pour qu'on sache s'il neige du ciel ou si c'est le vent qui souffle la neige des toits. À peine moins d'un centimètre. Ça se refroidit au courant de la nuit, moins 17, évidemment. Demain, moins 9, généralement ensoleillé. Et le mercure va aussi entre moins 10 et moins 12 jusqu'à mercredi, sous un ciel généralement ensoleillé. J'ai franchement envie de célébrer ce matin. Présentement, c'est moins 4 à Québec.
Dans la Ligue nationale de hockey, le Canadien de Montréal va affronter ce soir en Floride la meilleure équipe de la Ligue nationale, soit le Lightning de Tampa Bay. Depuis le début de la saison régulière, c'est le Lightning qui n'a encaissé que 15 défaites en 58 matchs. Hockey junior, les Remparts se sont inclinés 3-2 en prolongation face au Saguenay-Chicoutimi. Mathieu Grucci et Thomas Caron ont marqué dans la défaite le préféré de Paul, le gardien Carmine Anthony Pagliarulo.
Ben oui.
A stoppé 25 des 28 tirs dirigés vers lui. Québec va jouer son prochain match cet après-midi à 16h du côté de Bécomo. Et au tennis, le Canadien Denis Shapovalov s'est incliné en deux manches devant Stan Wawrinka lors d'un match de quart de finale au tournoi de Rotterdam. Le Suisse a rendez-vous avec le Japonais Kai Nishikori au prochain tour. Ce dernier est considéré comme le favori du tournoi.
Je fais des blagues avec le pelletage, mais on nous dit déjà au 25-2-6, une auditrice qui nous dit qu'il neige présentement à Beauport.
Ouais, on est avec toi, Audrey.
Êtes-vous sûr qu'il neige ou que c'est pas la neige des toits qui se fait souffler par le vent?
Parce que fluffy. Là.
Ouais, parce que moi, j'ai souvent de la misère à distinguer les deux. Quand il neige, pas beaucoup. Mais je vous le dis, espoir, chers amis, espoir. On va avoir un break dans les prochains jours. Mais écoute, je t'écoutais, Kevin, l'histoire du métro, c'est quand même hallucinant, le métro de Saint-Étienne qui s'est effondré. Hier, je voyais un reportage de Radio-Canada, il interviewait un monsieur qui se trouvait dans le métro, mais écoute, la panique, là.
Mais là, c'est sûr.
Non, mais attends, on va juste se mettre à leur place une seconde, à la place des gens qui étaient dans l'épicerie. Tu fais ton supermarché, touc-touc, tu pousses ton petit panier hein, dans l'allée des surgelés, pas trop loin du petit carré de 80 pieds par 80 pieds de la boucherie, parce que c'est là que ça s'est effondré.
Et tu finis la semaine, tu disais, je m'en vais passer une petite fin de semaine tranquille, je fais
peut-être
l'épicerie.
Tu fais peut-être la Saint-Valentin en retard.
Le gars se préparait son souper de Saint-Valentin en retard, pour vrai. Là, il entend un gros craquement. Le plafond commence à descendre. Les gicleurs partent, parce que les gicleurs, moi, normalement, qu'il se passe quelque chose dans la structure, ça part. Les gicleurs partent, il y a de l'eau partout. Panique générale, les gens se mettent à crier, à pleurer, à se ruer vers la sortie. Heureusement, On n'a pas noté de blessés graves. Je pense, deux personnes qui ont été conduites à l'hôpital pour des blessures mineures. Oui. Mais la panique. Ben, écoute, ça devait être hallucinant.
Tu dois arriver, tu dois avoir les genoux mous. Là,
ben, par les temps qui courent, tu te demandes si c'est juste la structure qui s'effondre parce qu'il y a un problème quelconque ou il y a quelqu'un qui a fait effondrer la structure. T'sais, tu te le demandes quand même. Moi, je me suis demandé si c'était pas une revanche de végétariens quand on des viandes, on ne sait pas.
Non, mais tu sais, évidemment, la première affaire à laquelle on pense, c'est la neige, c'est le poids de la neige. Là. Puis d'ailleurs, il y a un auditeur qui nous a écrit pendant la nuit pour dire, juste pour vous dire que les pelleteurs déneigent de 2 à 3 fois par hiver minimum près des modules sur les toits au cas où il y a un bris pour enlever du poids. Peut-être que la job avait été mal faite. Mm. Normalement, les structures sont censées, là, techniquement, ou on va dire théoriquement, les structures sont censées tolérer un certain poids quand même, le poids de la neige l'hiver. Mais cette année, c'est des quantités vraiment importantes qui sont tombées. Écoute, c'est pas mêlant. Je sais que vous êtes presque tous comme moi, sauf un auditeur qui m'a écrit ce matin pour dire « Hey, c'est drôle, moi j'ai encore de la place où mettre ma neige. » Écoute.
Eh hey boy, il est chanceux, lui. On peut-tu acheter une petite parcelle de terrain? Hein?
Moi, j'ai appris cette semaine que ça prenait un permis à Québec pour domper la neige dans la rue.
Oui.
OK? Moi, j'ai été élevé dans un quartier résidentiel du Vieux-Lévis où il y a peut-être un règlement, mais je le sais pas. C'est des petites rues.
Non, t'es évite les règlements.
Non, c'est pas vrai. C'est juste qu'on a tout le temps mis de la neige à côté. Tu sais, il y a aussi de la place, mais des fois, c'était comme un petit peu dans la rue. Des fois, c'était un petit peu sur le banc de neige. Bon.
Un peu chez le voisin.
On s'est jamais trop cassé la tête avec ça, disons. Mais là, je reste sur une avenue quand même passante à Québec, en ville. Puis il se trouve que mon banc de neige, là... Écoute, c'est pas des farces, Pascal, j'exagère pas une once, là. Ça fait 3 fois depuis mercredi que je déneige la fenêtre devant chez nous qui donne sur la rue. Je suis au rez-de-chaussée. Je suis 4 pieds au-dessus du rez-de-chaussée.
OK? Tu vois-tu à l'extérieur?
Attends, je suis pas demi-sous-sol, là. 4 à 6 pieds au-dessus du rez-de-chaussée. Ça fait 3 fois que je déneige ma fenêtre depuis mercredi.
Parce que tu voyais rien?
Parce que la neige s'accumulait dedans, je voulais voir dehors. Puis ça commence à être sombre.
J'ai pas l'impression de vivre dans un igloo.
Ouais, c'est ça. Ce matin, je me lève, elle était aux 2/3 de la fenêtre. Le banc de neige, j'étais aux 2/3 de la... J'hallucine.
Ouais.
Je sais plus quoi faire. Alors, je peux pas. Puis c'est là l'endroit où je pourrais théoriquement mettre ma neige. Ouais. Tu comprends-tu que je la mets pas là? Je la pousse un petit peu, pouf, pouf, dans le remblai, tu sais, les grades passent, ça fait un gros remblai. Moi, je saupoudre ça un petit peu sur le remblai, pas trop que ça paraisse. Pour vrai, je dois avoir un bill, là. Je regardais, c'est 6,75 du mètre carré que ça coûte, là. Si je calcule juste ce que j'ai accumulé en mètre carré de neige sur le remblai de la rue, je dois en avoir pour 500$ de bill non payé.
Ouais, dis pas où t'habites, hein, parce qu'il y en a qui vont courir après toi.
Ça, j'imagine pas le vendredi soir trouver une espèce de stratégie qui regarde autour de lui pour dire, OK, je peux-tu pousser ma neige?
Là, il attape un peu, juste un tout petit peu pour que ça paraisse subtil. Là, ça a l'air d'être la vie et la nature qui fait ça. Là.
Mais il y a un auditeur qui m'a dit ce matin, j'ai entendu entre les branches, je devrais dire ça comme ça. Mm. J'ai appris entre les branches, tu vois que je suis pas très, très bon pour protéger mes sources. J'ai appris entre les branches, tu peux bien parler, toi, CV, tu pèles même pas.
Ah, ouais?
C'est ça, hein?
Bon, mais là, c'est vrai que, en plus, cet auditeur-là, là, je suis certaine de savoir c'est qui. Là.
Non, tu sais pas c'est qui, tu le connais pas.
Moi, je dis que ça commence par M, mais en tout cas, on repensera. C'est ça. Cet auditeur-là, c'est parce qu'il se demande pourquoi j'aime l'hiver. Lui, il déteste ça, il déteste pelleter. À un moment donné, il dit, « Ouais, toi, Pascal, t'as pelleté combien de fois cette semaine? » Je dis, « Ben oui, c'est peut-être pour ça que j'aime l'hiver. Je pellete pas. Je suis dans un bloc appartement où t'as le déneigeur qui vient. Je suis au 2e étage, donc il n'y a pas de neige qui s'accumule. Puis mon balcon, comment il est situé, j'ai pas trop d'accumulation de neige. » Fait que c'est vrai que ça peut être une bonne idée pourquoi j'aime l'hiver. Mais hier, là, ça c'est une autre problématique. On sait tellement pas où mettre la neige dans le stationnement que le déneigeur est arrivé, puis on a tassé la voiture pour lui permettre de déneiger à l'endroit où c'est le stationnement des visiteurs.
Oui, oui.
Lui, il a baissé sa fenêtre en beau motadine bin.
Pourquoi?
De dire « Tassez vos voitures de là, parce que ça, c'est un dépôt à neige! » Bon, on a appris que le stationnement de visiteurs était rendu un dépôt à neige.
Ah, fait qu'il peut plutôt recevoir des visiteurs.
Il peut plus avoir de visiteurs.
Si, bol.
Non, c'est pas facile.
Non, mais c'est pas... Moi, je finis la parenthèse de la neige avec ça, là, mais c'est pas pelleter qui me dérange. Au contraire, moi, je veux t'avouer une chose, là. Je trouve ça satisfaisant d'aller pelleter.
Non, mais t'es rendu svelte, là, quand
t'as dit. Ben oui, c'est ça. Elle est bonne, celle-là. Non, mais tu sais, mettons, cette semaine, quand il est tombé 50 cm ou quelque chose comme ça, comme tout le monde, à un moment donné, j'ai perdu mon char en dessous du banc de neige, là, on le voyait plus, tu sais. Ça fait que j'ai passé une bonne heure, finalement, dehors à pelleter, puis à essayer de le sortir du trou. Puis
finalement, c'était l'auto du voisin.
Ça marchait pas. Il y a des voisins qui passent, qui me donnent un coup de main à pousser. Ça marche pas. Passe par en avant. Tu sais qu'il va finir toujours, il va toujours finir par sortir, oui, ton char. Ben là, il est sorti. Ça a pris 1 heure. Bon. Mais je suis rentré, fatigué. J'ai pris ma douche. me suis assis dans le divan, puis j'étais comme satisfait d'avoir pelleté. C'est pas ça qui me dérange. Non, mais il y a un sentiment de fierté à avoir accompli une tâche comme celle-là.
Mais c'est pas toi, des petites annonces dans le journal qui offre un service de déneigement privé. Dans le fond, Paul, il fait une coupe d'heure, puis tu peux appeler au.
Non, c'est pas ça. C'est pas vrai.
C'est aussi, tu pourrais avoir une amende.
Non, mais moi, ce qui me dérange, c'est quand, tout de suite après que tu as fini de pelleter, il retombe un autre 30. Ah, ça, là, j'hallucine. Là, j'ai vraiment atteint mon maximum. Là. Il va falloir que je pelle en revenant chez nous, là. Là, j'aimerais ça être capable de coller deux jours sans pelleter.
C'est comme un peu user ta patience, si je comprends bien. Il y a des gens qui disent, imaginez l'eau que ça va faire au printemps. C'est vrai, quand ça va se mettre à fondre, là.
Il va falloir sortir la,
il va avoir d'autres problèmes.
L'appel grenouille sur, sur l'autoroute capitale. Pascal, comme à tous les matins, vers cette heure-ci, on va se lancer dans la grosse nouvelle qui retient notre attention dans nos principaux quotidiens. Je vais débuter par un dossier du Journal de Québec qui commence en page 6-7 puis qui se poursuit ailleurs là, dans les pages du journal. Et ça concerne la détresse chez les médecins. Et notamment le taux de suicide chez les médecins, qui, selon une étude, serait plus élevé que la moyenne de la population. Puis ben, on essaie de toutes sortes de façons de tenter d'expliquer pourquoi, puis qu'est-ce qui cause la détresse chez les médecins. Puis il faut que je t'avoue que, d'un certain sens, là, je regarde différents facteurs, puis je me dis, je peux pas être si surpris que ça qu'il y ait des médecins en détresse. Tu sais, c'est important de spécifier, là. Pour moi, puis j'ai bien de la misère de déroger de cette façon de voir les choses-là, mais pour moi, quelqu'un qui a des pensées suicidables et qui veut s'enlever la vie, réfléchit à une solution permanente à un problème qui ne l'est pas. Mm-hmm. Tu sais, la dépression, les problèmes de santé mentale, puis tout ce qui peut causer là, le fait d'avoir envie de s'enlever la vie, là, c'est un nuage sombre au-dessus de la tête, mais qui finit toujours par passer. Il n'y a jamais un nuage qui reste fixe à la même place.
Non, puis dans les témoignages de ceux qui ont eu cette pensée-là dans leur vie, on entend souvent « j'imaginais pas que mon futur pouvait être aussi beau, une chance que je ne suis pas partie. »
Absolument. Mais je vais en revenir aux chiffres, parce qu'il y a aussi une autre affaire avec les médecins. Puis moi, je fais partie des gens qui se gênent pas du tout pour critiquer le salaire des médecins spécialistes, par exemple, qui est trop élevé, mm-hmm. puis par exemple...
Les avantages qu'ils ont pour, mettons, mettre une jaquette supplémentaire.
Ben, c'est surtout que... C'est ça, c'est les fameuses primes, c'est un problème. Les salaires trop élevés, c'est un problème. Sauf que c'est des problèmes de système. C'est le système de santé qui a des failles, puis je vais continuer de les pointer. On va continuer de les identifier, puis on va continuer de les dénoncer.
Non, parce qu'eux, ils en profitent parce que ça existe.
Mais là, on n'est pas dans ces failles de système de santé-là. Là, on est face à un problème réel qui est appuyé par des chiffres, et c'est il y a beaucoup de médecins qui s'enlèvent la vie. Il faut qu'on comprenne pourquoi, parce que c'est problématique, puis il faut éradiquer ce problème-là. 19% des médecins, selon une étude qui a été menée, 19% des médecins ont eu des pensées suicidaires au cours de leur vie.
C'est énorme.
C'est un médecin sur cinq.
C'est énorme.
Un médecin sur cinq. Combien de médecins différents vous avez vu dans votre vie? Une fois que vous êtes allé à l'hôpital, médecin de famille, clinique sans rendez-vous.
Plus que cinq.
Au-dessus de cinq, là. Ouais, bon. Ben, cette étude-là, ce qu'elle dit, c'est il y a fort à parier qu'il y en a un des cinq qui a pensé à un moment donné dans sa carrière ou dans sa vie s'enlever la vie. 8% ont eu des pensées suicidaires dans la dernière année. C'est un peu moins qu'un sur dix.
C'est encore énorme, là.
Un sur dix. Un peu moins, 8%. Mais c'est hallucinant comme chiffre. Et deux choses que j'ai remarquées. D'abord, ben, on tente de l'expliquer. On dit notamment qu'il peut s'agir de pour des raisons de perte de capacité physique, de problèmes de couple, d'événements comme une plainte en déontologie qui viennent entacher leur réputation professionnelle.
Ceux qui ont un stress constant aussi, là.
Et ça, c'est la porte-parole du PAMQ, Programme d'aide aux médecins du Québec, là, qui dit ça. Et j'ai accroché là-dessus. Une plainte en déontologie qui vient entacher leur réputation professionnelle. J'en connais des médecins, j'en connais des gens qui ont étudié en médecine même récemment. Il y a un phénomène avec cette classe de gens-là qui est pour moi une classe à part, il faut le dire, là, puis vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais pour moi c'est une classe à part. C'est des gens qui sont compétitifs, à qui on demande de performer tout le temps, on leur demande la perfection.
Mais c'est normal, ils jouent avec la vie et la mort.
Oui, mais on leur demande aussi, depuis les études, puis depuis même le cégep, on leur demande d'être parfait.
D'être les meilleurs.
Parmi l'élite.
Oui, c'est ça, exact. Oui, 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 c'est très bien dit.
On leur demande d'être les meilleurs parmi les meilleurs. Alors que ça, c'est sûr que ça cause de la pression. Et quand il peut y avoir un phénomène qui va venir entacher une réputation, par exemple, plainte en déontologie, je comprends, en tout cas, j'arrive à m'imaginer comment ça peut causer une détresse chez quelqu'un.
Et en plus, il travaille dans un milieu qui est très émotif. Hein? Imaginez-vous, votre mère, votre père est malade, vous allez à l'hôpital, puis là, le médecin la traite pas comme vous souhaitez parce qu'il y a une grosse journée, mais il la traite bien, là, mais pas comme vous souhaitez, puis vous devenez émotif, la plainte peut venir rapidement.
C'est ça.
Il y a ça aussi.
Les problèmes familiaux, l'impact des enquêtes professionnelles, les erreurs médicales, les troubles de santé mentale sont d'autres facteurs qui sont identifiés comme pouvant mener au fait qu'il y a des médecins qui s'enlèvent la vie. Et il y a un témoignage que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on pointe du doigt et je sais pas à quel point c'est vraiment à la cause de ça, à la base de ça, mais on pointe la réorganisation du réseau, la fameuse réforme Barrette, là, et on dit ça a augmenté la tâche. C'est le témoin, en fait, c'est le collègue d'une médecin qui s'est enlevé la vie qui dit ça. Il dit la réorganisation du réseau qui avait augmenté la tâche de cette médecin-là de façon importante, ça la frustrait au plus haut point. Elle s'est mise à augmenter sa productivité, à couper sur ses vacances, à venir le samedi. Puis un matin, c'est pas présenté au travail, on l'a retrouvée morte chez elle.
Mais tu sais, tu dis ça, là, puis faut juste y penser. C'est des personnes qui ont de la pression dans leurs études, tu l'as très bien exprimé. De la pression dans leurs horaires, du stress. Tu te fais appeler à minuit, dépêche-toi, faut que t'arrives là. Il y a un patient là, qui est entre la vie et la mort, c'est là que ça se passe. Lui, il faut qu'il se dépêche, qu'il se lève, qu'il soit très conscient, qu'il soit allumé pour aller travailler. T'as aussi la pression de la famille, du conjoint, de la conjointe qui dit t'es pas là aux fêtes des enfants, t'es pas là à Noël, t'es pas là ci, t'es pas là ça.
Ouais.
Ça reste une pression aussi dans une autre sphère de ta vie. Puis après ça, ben, ça reste toute la pression que les réseaux sociaux te mettent, les médias,
puis
le gouvernement.
Justement, je veux pas qu'on tombe non plus trop dans la victimisation.
Ouais,
parce que
je le sais
qu'il y a plein de monde qui vont dire, avec les conditions qu'ils ont, c'est pas vrai, avec les salaires qu'ils ont, ben sais-tu quoi, peut-être que justement, s'ils gagnaient des salaires qui ont plus de bon sens, là, puis qu'ils font pas en sorte qu'on se dit, coudonc, hein, c'est pris à 300 000 par année, t'as pas le droit de faire d'erreur. Peut-être que s'ils gagnaient des salaires plus convenables, justement, on n'aurait pas cet argument-là de dire, ben, ils gagnent tellement d'argent qu'on peut se permettre de leur mettre cette pression-là. Ouais.
Mais pour moi, ça compte pas parce que, comme tu l'as très bien exprimé, ça, c'est le gouvernement. C'est eux qui leur donnent du bonbon. Eux, ils l'ont devant eux. C'est sûr qu'ils vont le prendre. Je t'offre un muffin au chocolat ou un muffin au son et date. Lequel tu vas prendre au chocolat? T'as le choix de le faire. Eux, ils ont cette assiette-là devant eux. C'est sûr qu'ils vont aller piger dedans. N'importe quelle newfie irait piger dedans. Non, mais sérieusement, Paul.
Puis, dernière affaire, je finis la parenthèse là-dessus. Après ça, je passe à toi, Pascal. C'est en page 6 et 7 du journal, là, c'est là qu'on présente les principaux résultats de l'étude. Puis ça continue ailleurs. Mais à page 7, dans le bas de la page, il y a un encadré « Note à nos lecteurs ».
Oui.
Le Journal de Québec savait que c'est un dossier qui ferait réagir le monde, c'est certain. Et il savait aussi que à toutes les fois qu'on parle de suicide, et ils ont raison de penser ça, toutes les fois qu'on parle de suicide, c'est extrêmement important d'être très nuancé, de faire attention à ce qu'on dit.
Couper la poire en deux.
Exactement. Puis de présenter toutes les facettes. Et ils ont fait un encadré « Note à nos lecteurs ». Et ils expliquent toutes les mesures qu'ils ont prises pour s'assurer justement que les gens se plaignent pas. Bon, nous avons bien pris soin de respecter l'esprit des lignes directrices destinées aux médias de l'Association canadienne pour la prévention du suicide. Par exemple, nous avons décidé de ne pas publier les détails sur les méthodes utilisées, bien qu'elles se trouvent dans des rapports de coroner qui sont publics. Nous avons décidé de pixeliser les visages sur les photos, de conserver l'anonymat des médecins lorsque les familles nous l'ont demandé ou lorsque celles-ci ont été possibles à contacter. Je sors un peu de l'histoire des médecins, puis je regarde ça de mon œil de gars des médias, là, puis je me dis... Ils s'en viennent tellement habitués à des réactions très fortes,
ouais,
surtout à l'ère des réseaux sociaux, qu'ils mettent ça un peu, on dirait, comme pour se défendre là, d'emblée.
Pour montrer
là,
qu'ils ont de l'éthique de travail.
Oui, c'est ça, exact. mais bref, c'est du sérieux, mais c'est un dossier fort intéressant dans le Journal de Québec ce matin. Pascal?
Ah, je suis désolée, je vais reparler de la neige et des problématiques qu'on a eues cette semaine.
Ben
il y a
oui.
un texte d'Élisa Cloutier ce matin dans le Journal de Québec et elle pose la question « Sommes-nous trop imprudents? » Et à cette question, je répondrai « Oui, mesdames et
ah
messieurs. »
Ah oui, tu penses?
Je suis clairement certaine parce que pour avoir été avec un déneigeur dernièrement et avoir vu le comportement des conducteurs, je dis pas que tout le monde, je fais pas une généralité, mais il y en a certains qui sont très imprudents et qui font en sorte de causer des accidents en arrière. Ça reste que la chaussée n'est pas toujours bien déblayée. Ça reste que le sel et le sable n'est pas toujours très efficace à certaines températures. Mais tu sais, hier, encore une fois, on a eu la preuve. Accident sur l'autoroute 40, ça a été fermé jusqu'à 17 heures.
Mais là, c'est qu'on est à combien de carambolages cette année aussi?
C'est deux carambolages dans la région dans le dernier mois.
Ouais, il y a eu Lobinière,
mais quatre
au début
au Québec.
Février.
Quatre importants au Québec. Parce que là, je compte pas les sorties de route un peu partout ou deux, trois personnes qui sont rentrées dedans, là.
Non, non, c'est ça.
Fait que moi, je pense que oui. Puis je vais donner exactement pourquoi je pense que oui. Hier matin, en m'en venant au travail, j'ai une voiture qui me permet d'être un peu plus en sécurité dans ce genre de température-là, mais je me qualifie comme une conductrice qui n'est pas dans voie de droite à rouler à 30, OK? Mm-hmm. Fait que je suis dans voie de gauche et je vois deux personnes en avant de moi. J'ai probablement l'espace pour une demi-voiture. Il y a quelqu'un qui a décidé d'y aller quand même à ces températures-là, à cette condition météo-là. Donc, moi, c'est sûr, je l'ai klaxonné. À un moment donné, tu mets ta vie en péril,
ben
et la
oui.
mienne aussi,
ben
puis
oui.
celle de tout le monde. Parce que lui, avec sa petite Civic, là, il a décidé qu'il se logeait
là. Ah oui, c'est
là,
ça.
Hein?
Oui, oui.
Et après ça, il s'est mis à suivre dans le pare-choc arrière, la personne qui est en avant de lui. Vraiment trop collé. OK?
Oui, oui.
Fait qu'en plus, il y avait ce comportement-là. Donc, j'ai été chanceuse. Je l'ai suivi très longtemps sur mon parcours jusqu'à un moment donné où tu vois que puis je suis vraiment désolée. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça en onde, mais j'étais un peu contente de ce qui est arrivé.
Il a pris le clou?
Ben non. Il est rentré dans les fesses de la voiture en avant. Mais de façon très, très mineure, là.
Ouais.
Tu sais, je veux dire, il y a personne de blessé. Je suis pas sûre que la voiture ait craqué. Je suis pas sûre. Mais ça y a comme donné une petite leçon. Teinte, t'as une mauvaise une façon de conduire ce matin, tu viens de rentrer dans les fesses de l'autre, puis il va falloir que tu te tasses le côté puis gère ton problème.
Est-ce qu'on peut, mais tu as suivi le Civic en question, est-ce que tu aurais pu prendre la plaque en note puis avertir les autorités, mettons, avertir la police, dire ouais, tel,
J'y pense souvent.
Mais je sais pas si ça se peut, tu sais.
Ouais, je sais pas si on peut sévir, parce que encore là, c'est juste moi le témoin de ça. Je sais qu'il y a des caméras du MTQ, mais est-ce que les policiers ont le temps d'aller regarder ça? Je pense qu'ils ont bien d'autres chats à fouetter, là. Mais ça, puis les igloos, là, j'en ai vu un ici, là, sur le coin
ouais,
de la rue.
Ça, ça me fait halluciner, par exemple.
J'ai jamais vu un igloo de même de
toute
ma vie.
Honnêtement, ça, c'est vrai. Je suis vraiment très, très peu tolérant à l'égard de ça.
C'est parce que tu crées un blizzard en arrière, puis il y en a déjà un.
Combien de temps ça prend de neiger l'auto, honnêtement? Ce matin, là, je voyais pratiquement plus mon auto, était dans le banc de neige, il était 5h du matin, ça m'a pris 10 minutes.
Tu le fais.
10 minutes.
Tu le fais, mais tu croises personne, là, mais tu le
non,
fais.
Non, c'est ça, mais j'ai un petit toc aussi de propreté à cet égard-là, mais ça, c'est peu importe, là. Mais, tu sais, si la différence de temps, c'était 5 minutes ou 45, je comprends qu'il y a des gens qui le feraient pas, puis qui voudraient, tu sais, qui sont pressés.
Mm.
Mais là, c'est la différence entre 5 minutes puis 8 minutes, là, tu sais.
5 minutes et 5 minutes 30.
Ah, franchement, là, tu sais, je veux dire, déblaye-toi, c'est tout, là.
La fameuse histoire, ma voiture est trop haute, j'atteins pas le toit. Juste vous dire que des balais télescopiques, là, j'ai une Jeep qui est assez haute, puis mon balai se rend parce que j'ai acheté un balai en conséquence.
Moi, j'ai un petit char de rien très bas, puis j'ai ça quand même.
Toi, tu peux passer ton bras dessus.
Ah, ouais, mais j'ai quand même le balai télescopique.
Quel
là.
Luxe. Quel
ah,
luxe
oui.
à 12 $,
madame. Ah, ouais, luxe à 12 $. T'as raison.
Il y a quelqu'un qui nous écrit, les gens appuient sur l'accélérateur et n'ont pas l'impression que c'est très glissant,
c'est
mais c'est
vrai.
Au freinage qu'on constate
ça,
que c'est
vrai.
Très glissant.
Ce matin, confession, je l'ai fait. À un moment, il va falloir que j'arrête de faire ça en onde parce que les policiers vont me ramasser dans le détour. Mais
surtout
ce matin,
c'est la marque de ta voiture.
Ce matin, je suis passé sur un feu rouge, mais.
Voyons.
Écoute, non, mais c'est parce que je roulais à une vitesse très normale là, sur une avenue là, quelconque. Là. Je ne veux pas dire j'étais où pour pas qu'ils me surveillent. Je roulais sur une avenue quelconque et la lumière est devenue jaune. Et il y avait un autre auto derrière moi. C'est que j'ai décidé, plutôt que de freiner, de risquer de glisser puis de me retrouver perpendiculaire sur un boulevard, je vais continuer. Puis, tu sais, elle est jaune foncé, elle devient rouge. Tu sais, l'été, j'aurais arrêté, là. Sur une chaussée sèche, j'aurais arrêté. Mais je le savais que quand tu roules à 50 puis que ta distance de freinage est limitée, c'est sûr que ça part à...
Mais il y a des situations comme ça, des situations hivernales qu'on n'a pas le choix de s'adapter. Puis au pire, tu klaxonneras tout le long que tu traverses pour être sûr que tout le monde te voit et t'entend. Là. Oui!
Les deux bras dans les airs. Excusez!
Et hey, puis en passant, juste pour vous donner une bonne idée, hier, je parlais à un déneigeur là, qui a travaillé toute la semaine. Puis il dit, rappelez-vous la tempête de mercredi. C'était pas facile, hein, la visibilité était nulle. Mais moi, j'ai trouvé ça plus difficile hier, même s'il y avait une bonne visibilité, parce que ça glissait encore plus. Et c'est là que j'ai vu encore plus de conducteurs téméraires.
On s'arrête pour une première pause. Avant, je vous invite à aller faire un tour sur notre page Facebook. Je vous ai mis une vidéo quand même, pas piqué des verres, d'un gars. Ça a été filmé hier, semble-t-il. C'était un gars qui skie la côte Salaberry.
Oui, j'ai vu ça, c'est excellent.
Ça? Allez voir ça sur la page Facebook du FM 93. Je vous ai relayé ça par là. Mais ça m'a fait rire parce que je m'imaginais le petit touriste français qui passe par là, ou le petit touriste asiatique, qui voit le bon canadien qui descend la côte Salaberry pour aller faire ses commissions en revenant du bureau. Tu sais. Ça fait canadien pas pire. Tu vois pas mal juste ça. Au Canada, un lendemain de tempête, les gens qui skient dans les rues. Allez faire un tour sur notre page Facebook. On revient dans 3 minutes.